بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب شح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Mes chers frères, mes chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous réunit ce soir pour un grand moment. Parce que dans quelques instants, un jeune croyant, et d'autant plus un jeune hafid al-Qur'an, va dire oui à une croyante. Et ils vont se retrouver unis, bi-idhnillah, par les liens du nikah. Et par cet acte qui va être prononcé dans quelques instants, ils vont compléter, incha'Allah, la moitié de leur Iman, la moitié de leur foi. Et en même temps, ils vont affirmer leur amour d'Allah. Ils vont affirmer leur crainte d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils savent que s'unir, concrétiser l'amour, concrétiser la muhabba qui existe entre deux personnes, ça ne peut se faire que par les liens sacrés du nikah, uniquement comme Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné et comme le prophète Muhammad Mustafa alayhi afdal as-salah wa atamu at-taslim nous l'a enseigné. On a grand espoir que ces quelques paroles qui ne représentent pas grand-chose, on va dire c'est un programme de plus avec tous les programmes des nikah hein, qui sont faits régulièrement, mais que ce soit inshallah un intermédiaire de guider et une prise de conscience pour ce futur couple inshallah qui va s'unir, mais également les anciens couples, les couples qui ont 10 ans, 15 ans, 50 ans de mariage, parce que nous restons toujours de jeunes couples, et inshallah pour ceux qui vont se marier bientôt, parce qu'il y aura à peu près 2 ou 3 nikah mashallah qui sont prévus durant ce mois, et ça c'est une excellente nouvelle pour la Ummah. De la masjid de Saint-Denis, dans les jours qui viennent, mashallah, il y a de plus en plus de nikah. Et bien sûr, quand on parle de nikah, ce sont des jeunes qui se marient. Très souvent, lorsqu'on entend que dans telle ville, il y a un jeune qui a fait farir, il a terminé ses études, il est diplômé d'Afrique du Sud, diplômé d'Angleterre, diplômé des différents instituts, et qu'il revient, on est fier. On dit, mashallah, la Ummah va s'enrichir. Notre communauté s'enrichit de savants, de ulama, de fuqaha, de personnes qui vont, mashallah, progresser dans la religion et faire progresser. Et les autres en propageant le dîn. On est tous fiers quand on a un jeune qui revient, qui est alim. Ce sera le cas de notre jeune frère Nour, inshallah, dans quelques années, et tous ceux qui sont en études shafi, inshallah. On en est fiers. Mais on doit être également extrêmement fiers quand on voit un jeune qui se marie. Parce qu'un jeune qui se marie, quelqu'un qui a 23, 24 ou 25 ans, qui, mashallah, fait un pas vers le nikah, c'est quelque chose qui va, on pourrait le dire clairement, à l'encontre des mœurs véhiculées dans notre société, wallah musta'an. Parce que la société a développé un concept qui est maudit par Allah, un concept qui est, on pourrait dire, un des pires péchés, c'est l'adultère, le zina. Et notre société, wallahu musta'an, a changé le nom du zina. Tout comme le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé qu'à la fin des temps, les gens vont consommer l'alcool, mais sous d'autres noms. C'est-à-dire le haram va rester, mais l'appellation sera différente, dans le but de désacraliser et dédramatiser le péché. Et pouvoir assouvir ses instincts, ses passions, tout en sans se culpabiliser qu'on est en train de faire un péché. De la même façon, on a inventé, Allah Musta'an, le concept du concubinage qui remplace le nikah. Alors que, si on analyse le résultat, on a toujours deux personnes qui vivent sous un toit, qui s'aiment, qui s'échangent des mots doux et plus ses affinités. Mais d'un côté, il y a des gens qui se sont unis au nom d'Allah en prononçant les versets qui vont les unir et qui les engagent dans une relation conformément aux ordres d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'autre côté, des personnes qui ne font que se fréquenter sans se soucier des ordres d'Allah et de son prophète. C'est pour ça qu'on dit que deux jeunes qui se marient, wallahi, c'est un motif de fierté. Et on peut le dire avec encore plus de fierté, de fakhr, que dans notre communauté, chez les mu'mines, chez les musulmans, alhamdulillah, c'est quelque chose qui se produit régulièrement, le nikah, et qu'on ne retrouve peut-être pas dans les autres confessions. C'est que le iman est toujours là. La situation de la Oumma, elle est ce qu'elle est, avec ce qu'on entend dans l'actualité, avec la dépravation des mœurs, la perte des valeurs, mais le iman est toujours là. Et ça, alhamdulillah, nous devons remercier Allah et demander à Allah Azza wa Jal de donner la tawfiq aux générations qui vont venir après, de toujours considérer le halal et le haram, et de connaître la limite qu'il y a entre les deux, et de ne jamais faire un pas vers le haram, et de toujours se soucier des ordres d'Allah avant chaque prise de décision. On voit Aslam, Hafez Aslam, qui est stressé, qui est tendu, c'est normal. On n'a jamais vu un jeune venir se marier et dire « Je chante mon azam moi-même ». Ce serait vraiment étrange, trop cool. Mais on comprend son stress. Mais en même temps, on se dit que Aslam, ce n'est là que du bonheur. Et ce qui t'incombe, c'est juste de dire « Oui, j'accepte ». Et de dire « Nakahtuha wa » Bien, t'as pris ton dor, mashallah, wa qabiltuha. C'est simple. On va dire que c'est encore plus simple que d'aller acheter une baguette chez la boulangerie ou de passer une commande ou de téléphoner à une entreprise ou autre chose. Ce sont des mots d'une grande simplicité, mais qui engagent le marié vers quelque chose d'énorme. Des mots tellement lourds, importants, mais lourds en conséquence. Tellement importants, on va commencer par le cœur, parce que les amoureux, les mariés sont avant tout des amoureux. Tellement importants sur le plan sentimental. Parce que le nikah va sceller un amour qui existe par les liens sacrés du nikah, comme on vient de le dire. Et là, les savants disent, c'est la magie également du nikah. C'est qu'une relation, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui avant était considérée comme haram, tel degré de gravité que notre prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith décrit que lorsque les gens, des personnes accomplissent l'adultère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui quitte le cœur du croyant aslam? Le iman. La foi quitte le cœur du croyant lorsqu'il est de ce péché. Ça nous permet de comprendre la gravité de cet acte. Et en quelques instants, après un khutbah, après une question à l'attention du wali, du représentant de la fille, et une question, une réponse de la part du, inshallah, futur marié, ces relations deviennent totalement licites. Et en plus, il met en pratique une sunna. Et lorsque le mari et la femme se retrouvent, mashallah, en intimité, et lorsqu'ils font ce que les jeunes couples, et les vieux couples aussi, les tchatchas, ne soyez pas complexés, font, c'est une sadaqa. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'un homme s'approche de sa femme dans le halal, parce qu'il y a une relation de couple, c'est considéré comme une sadaqa. Vous voyez là, subhanallah, le contraste, l'opposition qu'il y a entre le même geste, le même acte, avant qu'on sent le nom d'Allah et avec le nom d'Allah. Ça, c'est la magie du nikah. Alors quand certains entendent que c'est une sadaqa, certains se reconnaissent comme étant des experts en sadaqa. Et peut-être même en sadaqa jariya et autre chose. Mais on va rester plus concentré. La magie du mariage est également la simplicité de l'islam. Pas de grande cérémonie, pas de grand protocole. C'est quelques versets du Coran pour la baraka, parce qu'on commence par le nom d'Allah, et comme on a dit, quelques échanges, et subhanallah, un amour va exister, va naître, va exister, va perdurer, incha'Allah, jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas comme dans les contes de fées. Se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et ensuite on ferme le livre. Là, wallah, le livre se ferme quelques instants, parce que chaque livre a un nombre de pages limité. Mais lorsqu'on ferme le livre, lorsque Malik al-Maud reprend les âmes, on ouvre un autre livre qui lui est éternel. Le livre éternel, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Jannatu adni yadkhulunaha, wa man salaha min » complète, hafizab. « Abaihim wa » Azwajihim wa dhurriyatihim. Ce verset doit nous faire rêver. Dans ce verset, Allah décrit que, je ne dis pas la traduction littérale, dans le paradis, les gens se retrouveront avec leurs parents, leurs enfants, leurs proches. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition? Wa man salaha. À condition qu'ils aient développé les qualités de iman et qu'ils aient apporté les bonnes œuvres de leur vie. Dites-moi, lorsqu'on va. Un exemple en décalage totalement avec le verset, lorsqu'on va en vacances quelque part, est-ce qu'un homme marié avec 3 enfants, est-ce qu'il se sentirait bien dans un hôtel 5 étoiles avec tout confort si sa femme et ses enfants sont restés loin? Non. Il peut avoir tout ce qu'on peut souhaiter, nourriture, confort, boisson, tout ce qu'on veut, mais si nos proches ne sont pas avec nous, il y a un pincement dans le cœur. Dans le paradis, ce n'est pas pareil, parce que les sentiments du paradis ne sont pas comparables. Mais le summum, le paroxysme, c'est quoi? C'est qu'un homme se retrouve dans le Jannah avec sa femme, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses proches. Pourquoi? Parce qu'ils ont su vivre selon les ordres d'Allah et selon la sunna du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est la magie du nikah. En quelques mots, subhanallah, on peut sceller un amour qui ne sera pas limité à la vie de ce dunya, mais un amour qui sera khuloud, éternel, parce qu'elle va continuer et s'amplifier jour après jour dans l'au-delà. Dans la vie de ce monde, même les couples qui sont très amoureux, il y a des fois où il y a des accrochages. Il y a, comme on appelle, dans le langage moderne, des clashs. on ne se comprend pas, où on s'affronte un petit peu dans les échanges, parce que nous ne sommes pas de la même famille, éducation différente, parfois tranche d'âge différent, ce qui fait qu'il y a des oppositions d'idées. Mais malgré ça, on s'aime, oui ou non. Mais dans le Jannah, dans un verset, Allah Ta'ala dit, si je retrouve le verset, « وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ » Le ghil, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de naqis dans le cœur de l'homme, la jalousie, toute chose qui est mauvaise, qui va empiétrer sur les bonnes relations, sera enlevée du cœur de l'homme. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Les gens du paradis auront les cœurs purs. En commentaire, les mufassirin disent, c'est le ni'ma apparent, extérieur, avec tout ce qu'on connaît, il n'y a pas besoin de décrire les bienfaits du paradis, mais ce n'est pas suffisant. Il y a également les ni'mas, les bienfaits intérieurs, la quiétude, la tranquillité du cœur. Un homme peut être dans un endroit magnifique avec tous les bienfaits, mais il a des remords, il a de la jalousie, il y a des choses, des mauvaises pensées qui traversent son esprit et en finalité il ne se sent pas bien. Alors qu'il a toutes les conditions du bonheur. Mais dans le Jannah, il y a les conditions du bonheur comme personne ne peut imaginer, aucun œil jamais vu, aucun oreille jamais entendu, wala khatara ala qalbi bashar, aucun cœur ne peut même imaginer. Mais en plus, il y a le sukoun, la tranquillité et la pureté des cœurs qui est spécifique au Ahlul Jannah et qui n'est accordée à personne de ce dunya. Tout ça, c'est le résultat. Là, on a parlé du début, que l'aslam est là, anxieux, il va se marier, et le résultat de l'au-delà. Mais entre le point A et le point B, et il est tellement long, le point Z, on pourrait dire, il y a beaucoup d'étapes. Il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a des moments où on est bien, on est profondément amoureux, il y a des moments où on se dit que j'aimerais que cet amour perdure toute notre vie, j'aimerais que le soleil ne se couche jamais, qu'on puisse se tenir les mains, etc. C'est cliché, vous savez. Mais il y a des fois aussi, on se dit, combien de temps ça supporte ça? Quel gouna m'en a fait pour gagner ça? Quel baddoua m'en a dû faire pour avoir ça? Et puis le lendemain, tout va bien. C'est-à-dire des hauts et des bas. Mais le musulman, le croyant qui développe les qualités que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait su développer dans sa vie, il trouvera toujours le juste milieu. Et il saura que tout ce qu'Allah prédestine, ça vient de lui et qu'il est de son devoir de développer, de donner le meilleur de lui-même, incha'Allah, pour que dans cette union, il y ait la quiétude, la tranquillité et Allah garantira par ses efforts la protection contre tout ce qui est nuisible, qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. On disait que ce sont là quelques paroles très simples, faciles à prononcer, en plus pour un hafiz du Coran qui, mashallah, maîtrise son hifd. Mais des paroles également, comme on a dit, lourdes en conséquence. Parce que quand on se marie, quand on dit « nakahtuha wa qabiltuha », je prends cette femme, cette jeune fille en épouse, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pris Khadija radiallahu anha dans son mariage. Tout comme il a pris, après son décès, Aisha radiallahu anha de son mariage. Et donc je m'engage à développer le même comportement avec ma femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait développé avec ses épouses Azwaj Mutahara. On place la barre très haut, oui, mais c'est le modèle. Quand on cite le verset Aslam, quel est ce verset qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous? Dites frère Mufti Adawi. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. On aime citer ce verset que dans la vie du prophète, il y a le modèle parfait. Mais très souvent, on s'arrête à l'apparence extérieure. Le modèle parfait, je vais manger à la manière sunna. Je vais me coucher à la manière sunna, les adab, par rapport aux vêtements, par rapport à l'apparence extérieure. On est très physique, apparent, extérieur. Pour nous, la sunna, malheureusement, se limite un petit peu à ce qui est palpable et visible. Mais suivre cet homme, c'est également suivre son modèle dans ses relations avec sa femme, dans ses relations avec ses enfants, avec sa famille, avec ses proches, avec la famille éloignée, avec ses voisins. Bref, être un homme qui a un comportement proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le akhlaq, dans le comportement et dans le mu'amala. Et quand on se marie, ça ouvre deux nouvelles perspectives en termes de comportement, en termes de akhlaq, et ça ne change en rien les comportements qu'on avait avec les gens qu'on fréquentait déjà avant le mariage. Les deux nouvelles perspectives dans les relations avec le prochain, après le mariage, c'est la relation avec la femme, chose qui n'existait pas avant, et la relation future, inshallah, avec les enfants en termes de responsabilité. Ça, c'est nouveau. Maintenant, les responsabilités qui existaient déjà dans nos relations avec nos proches existent toujours et doivent perdurer et jamais changer. Et qui sont ces personnes qui ont le plus de droits sur nous en numéro 1 ? C'est qui en numéro 1, Islam ? La maman. Quand un sahaba avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a le plus de droits sur moi ? Qui est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité trois fois ? Mufti. La maman. La première fois la maman, la deuxième fois, la troisième fois, et ensuite le papa. Tonton Yacoub dit, à moins quatrième ? Oui. Trois fois la maman. Parce que la maman, c'est la murabbiya. Si Aslam est là, avec ce qu'il représente en termes de tarbiya, d'éducation, s'il porte le Coran de son cœur, s'il se prosterne cinq fois par jour devant Allah Rabbul Izzah, c'est parce qu'à la base, il y a eu murabbiya, il y a eu la dame qui lui a donné l'éducation. Ensuite, il y a eu les mounissab. Mais il y a eu d'abord cette personne qui lui a donné la tarbiya. D'où la nécessité d'être toujours reconnaissant. Les savants disent, je dis les savants, parfois c'est moi qui dis, je dis les savants, parce que hein, les savants disent qu'il ne doit pas y avoir une vie avant le mariage avec notre maman et une vie après le mariage avec notre maman et avec le papa aussi bien sûr. Il ne faut pas que dans ma relation avec mes parents, il y ait un changement après le mariage, que je m'éloigne de là, wallah, jamais de la vie. N'oublions jamais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté sur le mimbar, hadith très connu, il avait dit Amin trois fois. Et parmi ces trois Amin, il y avait une malédiction. Excusez-moi, on parle de malédiction dans un mariage, mais il faut tarib et tarib pour bouger un peu les cœurs. Il dit que malheur à ce jeune, à cet enfant. Et quand on dit enfant, dans la langue française, un enfant c'est peut-être jusqu'à, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Mais islamiquement, un enfant, c'est tant que les parents sont vivants. Même si les parents, même si l'enfant a 45 ans, 50 ans, et ses parents sont 80, 90, peu importe l'âge, ça reste les enfants. Et ce qui est magnifique de notre religion, et qui est une réponse à tous les problèmes de société, c'est que plus on avance dans l'âge, plus on a des récompenses, on a des hasanats, des thawabs, si nos relations avec nos parents restent intactes, et plus encore s'améliore. Parce que respecter ses parents, être proche d'eux, quand on est un jeune garçon sous le toit de ses parents, c'est quelque chose, on va dire, d'accessible. Malheureusement, à notre époque, c'est plus aussi évident, mais c'est quand même accessible. Parce qu'il y a un devoir de retour. C'est elle qui cuisine, c'est maman qui lave les vêtements, c'est maman qui entretient la maison, et ainsi de suite. Petite parenthèse, les jeunes papas qui ont amené leurs enfants en maternelle pour la première fois. On en a vu, mon Yanas, il est là, mon Yanas Ravat, il est partout par là, on va te frapper gâteau. Des jeunes qui amènent leur premier enfant en maternelle, qu'est-ce qu'on ressent comme émotion ? On est content, on a peur, on est craintif, mais on est en même temps fier qu'il y a la séparation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une époque, nos parents nous ont amenés par les mains de cette même école ou de ce même niveau. Et que subhanallah, si aujourd'hui je suis marié, j'ai des enfants, c'est que leur éducation a porté leurs fruits. Toute la reconnaissance revient à Allah Azza wa Jalla en premier, et ensuite au papa et à la maman. Jamais oublier ça. Et comme on disait tout à l'heure, il y a plus de récompenses maintenant à respecter et à être proche de ses parents quand ils sont un peu plus âgés. Dans le langage courant, on dit les parents deviennent gâteux. On voit dans certains reportages des gens hein, qui disent que voilà, fièrement, on a fait une petite cabane, un petit studio, on va y faire des actualités l'autre fois, dans la cour, pour mettre le vieux ou la vieille, et avec une caméra, moins, il ne manque de rien, s'il y a un souci, on est là, et ils se sentent comme les meilleurs des enfants. Allah musta'an. Akhlaq du mu'min, dans ses relations avec les parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité l'histoire des Banu Israël, ce jeune homme qui était resté une nuit debout, Khidma de ses parents. Et grâce à ça, ils ont été protégés dans l'histoire de la grotte très connue. C'était l'action de toute sa vie, parce qu'il devait mettre en avant quelle est l'action que j'ai fait avec le plus de sincérité et qui a plus de chances d'être accepté par Allah. Ce jeune homme a dit, oh Allah, la plus belle des actions que j'ai fait, c'était une fois, l'histoire connue, je suis resté debout, khidma de mes parents, et je n'ai pas voulu les réveiller jusqu'au lendemain. Et c'était l'action qu'Allah a le plus aimée durant la vie de ce jeune. Donc la relation avec les parents doit rester ferme, encore plus dans la vieillesse. Et j'aime pas le terme la vieillesse. Parce que plus les parents, ils vont maintenant avancer dans l'âge, et nous on grandit, les relations deviennent plus complexes, pas difficiles, plus complexes. Parce que quand j'ai 16, 17 ans, j'obéis, c'est normal. Mais quand je suis marié, c'est comme si que j'ai l'impression que j'ai monté en grade. Et que si ma maman me fait une remarque devant ma femme, je me sens atteint et diminué. D'une manière générale qu'on parle à l'islam, hein, je me sens atteint et diminué, et na'oudou billah, et on voit ça chez des jeunes mariés, même si durant toute ma vie, je n'ai jamais manqué de respect à ma mère ou à mon père, juste pour montrer à ma femme que je représente quelque chose, que je ne me laisse pas marcher les pieds, je vais pour la première fois de ma vie m'opposer à ma maman ou mon papa, et montrer que maintenant, je ne suis plus le petit garçon sous ton toit, je suis marié, j'ai un appartement, j'ai un travail, je suis autonome, na'oudhu billah, autonome. S'il ne t'avait pas donné ce tarbiyah, tu ne serais jamais autonome. Et plus nous aussi, mashallah, on grandit, on a des enfants, ce qui veut dire que de l'autre côté aussi, les parents deviennent plus âgés. Et quand les personnes deviennent âgées, ils ont des attitudes, des manières un peu plus complexes, tendance à répéter les mêmes choses, tendance à poser parfois beaucoup de questions, à nécessiter beaucoup de temps, demande beaucoup de temps. Et nous, on est jeunes, on est speed, mon Habiboula qui sourit, on est speed, on a plein de choses à faire, on a des projets, on veut enchaîner, et on ne veut pas qu'on nous ralentisse. Mais c'est là la meilleure des actions, c'est d'être encore plus proche d'eux dans leur vieillesse, jusqu'à ce qu'ils quittent ce dunya. Avec ce akhlaq, le papa et la maman, on règle d'énormes problèmes de société, avec des mots simples que le prophète a dit, la métaphore qui est magnifique, Jawami' al-Kalim, les plus belles des paroles qu'Allah a donné au prophète, le paradis, il est où? La métaphore sous les pieds de la maman, n'est pas sous les pieds de l'épouse, sous les pieds de la maman. Donc la mère reste la priorité de nos cœurs, quelle que soit la situation. Et deuxièmement, l'épouse. Parce que l'épouse, aslam, c'est un amana, c'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jalla accorde à un mari. Et il y a l'ordre d'Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiruhunna, c'est amr, ordre, l'impératif d'agir correctement avec la femme. Et qui dit ordre dit récompense. Et qui dit désobéissance à l'ordre dit conséquence et su'al, question. Des comptes, donc, à rendre le jour des comptes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Imam Tirmidhi, nous dit que le jour des comptes, Allah Azza wa Jal demandera à son serviteur, à un muslim, à un mu'min, à un croyant, « Alam aj'al laka sam'an wa basaran wa ma'lan wa walada » Ne t'ai-je pas accordé la vue, l'ouïe, ne t'ai-je pas accordé tel bienfait, ne t'ai-je pas accordé des enfants. Et dans une autre version, « Alam uzawwijuk » Ne t'ai-je pas accordé une épouse? Les savants disent que ça fait partie des questions à propos desquelles nous aurons à répondre le jour des comptes. Donc la deuxième personne de la priorité après les parents, ce sera donc l'épouse. Mais dans l'autre sens aussi, l'épouse également aura à répondre de ce bienfait qu'Allah lui accorde, un mari, et d'autant plus un mari pieux. La première question à propos de laquelle la femme aura à répondre le jour des comptes, ce sera ses prières. Sa relation avec Allah, ses 5 salats, namaz. ثُمَّ عَنْ بَعْلِهَا كَيِّفَ فَعَلَتْ إِلَيْهِ Ensuite, son mari. Comment est-ce qu'elle a agi avec son mari? Donc ça, c'est la deuxième priorité. Et la troisième priorité, chose nouveau, les enfants. Et ça, on aura l'occasion, par la suite, quand Inch'Allah, Allah t'accordera des enfants. كُلُّكُمْ رَاعِينَ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ Pour ça, m'a donné cet exemple que vous êtes tous des bergers. Et chaque berger aura à répondre de son troupeau, c'est-à-dire la femme et les enfants. Une amana, un dépôt qu'Allah nous accorde. Et ensuite, il y a le reste de la famille. Là aussi, il ne faut pas qu'après le mariage, on ait une relation différente avec nos proches. Frères, sœurs, cousins, tontons, tantes, etc. Parce que je suis marié, je me mets en retrait, aucunement. Bien au contraire, je dois faire en sorte que la personne avec qui, machin, je me marie, soit acceptée par la famille. Et que, quand on se marie, ce n'est pas uniquement deux êtres qui vont s'unir, qui vont se rapprocher. Ce sont deux qabilas, deux familles, deux usra qui vont s'unir, qui vont être de plus en plus proches. Et ça va développer encore plus de muhabba de la umma. Donc pour le mari, c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité. Et pour la femme, c'est une grande opportunité. Beaucoup plus facile pour l'épouse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith d'Imam Tirmidhi ibn Majah, n'importe quelle femme qui meurt, wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah, une femme qui meurt et qui, bien sûr, avec les conditions de tout à l'heure, l'accomplissement des prières, et que le mari est satisfait d'elle, dakhalatil jannah, tout simplement, et aussi magnifiquement, elle fait partie des gens du paradis. Une femme qui meurt en accomplissant ses prières et qui a le contentement de son mari, inshallah, c'est une femme du paradis. Donc un amana, un dépôt, mais également un ni'ma, un bienfait. Il y a deux hadiths, et les savants disent qu'il y a un parallèle entre ces deux hadiths. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les plus grands trésors de ce dunya, al-mar'atu saliha, la femme vertueuse, ça fait partie des cadeaux, des trésors de ce monde. C'est le plus beau cadeau qu'Allah puisse accorder à un homme que d'avoir une femme pieuse. Et dans un autre hadith, maintenant on retourne également, très souvent on dit qu'on prend trop la défense des femmes lors du mariage. Dans l'autre sens également, pour la femme, l'époux, le mari vertueux, est un bienfait, d'où le hadith dans lequel le Prophète dit que lorsque quelqu'un qui a les qualités religieuses, les qualités de dîn, se présente à vous pour une demande en mariage, je veux dire, acceptez. Si vous n'acceptez pas, il y aura telle conséquence. Et les savants disent que un homme pieux, un jeune homme pieux qui demande en mariage une fille, pour les parents de la fille, c'est un cadeau de la part d'Allah que de recevoir une demande d'un homme pieux, d'un jeune homme pieux, d'un hafiz al-Quran, de quelqu'un qui a la science, de quelqu'un qui pratique, de quelqu'un qui a le dîn dans sa vie. C'est là également un cadeau de la part d'Allah. Le point commun, ces deux hadiths, c'est la taqwa, la piété, la proximité d'Allah. Parce qu'une épouse qui est très belle, très jolie, mais qui n'a pas le dîn dans sa vie, on contemplera sa beauté. On sera fier hein, quand on verra que, mashallah, waouh, il a tiré un gros morceau, il a pêché un gros poisson, waouh, quelle beauté, quelle chance qu'il a, quel séducteur, quel tombeur ce islam. Mais si c'est une femme qui n'a pas de dîn, quelle éducation donnera-t-elle à ses enfants? Alors qu'une femme vertueuse, mashallah, elle va faire régner une ambiance de dîn dans la maison. L'homme s'absente, mais elle sait que le nom d'Allah est cité en permanence dans cette maison. Et c'est là le plus grand cadeau qu'un homme peut avoir. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a besoin de faire mashwara, concerter avec quelqu'un en priorité, il allait voir ses épouses. Ça, c'était la proximité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec ses épouses, azwajun mutahharat. Ça, c'est l'exemple, uswatun hasana. Une femme vertueuse sera respectueuse de son mari. La notion de respect de nos jours est parfois perçue comme une soumission de la femme. Là, wallah, au nom de quoi on fait une relation entre respect et soumission? Bien au contraire. Autant la femme est respectueuse de son mari, autant le mari se doit d'être respectueux envers son épouse pour que le couple, mashallah, puisse avancer. Et la femme donc fera qadar, comme on dit, de son mari. C'est une femme qui sera honnête dans la gestion de la maison et une parfaite murabbiya, comme on a dit tout à l'heure, une éducatrice qui va, inshallah, former des enfants qui seront des adorateurs d'Allah. Des enfants qui apprendront à se prosterner devant Allah 5 fois par jour. Des enfants qui apprendront à lever les mains quand ils ont besoin de quoi que ce soit. La première réaction de l'enfant, ce sera de demander à Allah quand ils veulent quelque chose ou de demander protection à Allah contre telle ou telle chose. Tout ça, c'est ce qu'une femme pieuse peut apporter. Et un mari pieux, qu'est-ce qu'il peut apporter? Mashallah, il va s'acquitter de ses devoirs envers sa femme. Il va respecter sa femme. Il ne brusquera jamais son épouse. Il ne frappera jamais sa femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais, comme on dit, levé la main, n'avait jamais frappé ses épouses. Il n'avait jamais, subhanallah, insulté. Le hadith qu'on dit dans tous les nikahs, hadith où par exemple reçoit un bol de nourriture et sa femme prend, il jette par jalousie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la meilleure des créatures, va se baisser pour ramasser la nourriture et les débris du récipient. Qui ferait ça de nos jours? Qui ferait ça de nos jours? Ça c'est ahsan al-makhlouqat, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le uswatun hasana. Et également, un couple qui se forme, inshallah, et qui aura des enfants pieux, ça fera également la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour des comptes. De quelle façon? Le prophète m'a dit que le jour des comptes, je serai fier de voir ma umma qui est plus nombreux que toutes les autres communautés. Et ça doit être également un des objectifs du mariage, c'est d'avoir des enfants, mais surtout des enfants qui seront, mashallah, la fierté, hein, la fraîcheur de nos yeux, et qui seront pieux, et qui représenteront, mashallah, de la meilleure des façons, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour conclure, dans chaque initiative, dans chaque entreprise, on doit se fixer des objectifs. On a un leitmotiv, on a un mot d'ordre dans chaque chose qu'on va entreprendre. Dans la vie du musulman, d'une manière générale, et dans la vie de couple, quand on va se marier, il y a des phrases clés qu'on doit intégrer. Il y a la notion d'amour, d'échange, le romantisme, bien sûr, mais en termes d'objectifs. Parce que le rôle d'un couple. Les objectifs d'un couple ne doivent pas se limiter à finir les fins du mois comme il le faut et avoir tout ce qu'il faut dans la maison, devenir propriétaire, avoir une voiture, avoir des enfants, etc. Ça, ce sont des maqasid, c'est dunyawi. Ce sont là des objectifs à court terme en rapport avec notre vie de ce dunya. Les vrais ulou wal himma, les vrais objectifs d'un couple, d'un homme et d'une femme, ce sont les versets suivants qu'on cite régulièrement, mais il faut qu'on intègre pour que la réalité du dîn entre dans notre vie. Il faut faire attention qu'on ne développe pas, qu'on ne se contente pas de développer l'apparence des a'mal sans qu'il y ait le fond. Les versets de base pour tout musulman, ancien couple, nouveau couple ou même personne célibataire, c'est « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » prise de conscience qu'Allah m'a créé pour faire son adoration. J'ai été créé pour ça. Ce front, il a été créé pour se prosterner devant Allah. Et pour rien d'autre. L'autre verset, on ne va pas faire de tafsir, mais l'autre verset, en plus, Assam, tu es hafid, donc tu retiendras ces versets. L'autre verset à retenir, c'est « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati » appartient à qui ? Lillahi rabbil alamin. En résumé, ce verset prouve que nous appartenons à Allah intégralement. Je vis, je meurs pour Allah. Un homme, une femme qui intègre ça, il comprend c'est quoi le sens du ibada, at-tadhallul wal-khudu', la soumission totale envers Allah. Il comprend ça veut dire quoi être un musulman, un être soumis à Allah. Le troisième verset, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et en commentaire, les mufassirs disent que ce verset prouve que l'adoration d'Allah n'a pas de limite. Ne soyons pas comme ces personnes qui malheureusement ont été égarées par Shaytan, qui insufflent dans leur cœur que tu es adorateur d'Allah durant le mois de Ramadan, durant la nuit du 15 Sha'ban, durant les 10 jours de Dhul-Hijjah, bas, et le reste du temps c'est pour toi. Ça c'est pour Allah et le reste c'est pour toi. La wallah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'au dernier souffle de notre vie, nous restons des ibad, des serviteurs d'Allah. Et ces trois versets, ces quatre versets, avec ça on pourrait rajouter thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilayhi turja'un, les étapes de la vie. Nous sommes vivants, ensuite on meurt, ensuite Allah nous redonne vie, on retourne auprès de lui. Ce couple qui va construire sa vie autour de ces versets et qui va véhiculer ses valeurs à ses enfants, ce seront, Inch'Allah, les meilleurs des hommes, les meilleurs des papas, les meilleurs des mamans, le meilleur mari et, Inch'Allah, la meilleure femme. Parce que l'objectif durant toute notre vie, c'est de devenir meilleur, d'avancer, devenir un meilleur adorateur d'Allah, un meilleur fils, un meilleur frère, un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur voisin, un meilleur citoyen. Parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur dans tous ces domaines. Gardons, Inch'Allah, l'esprit, ces versets et demandons à Allah de nous donner le tawfiq de les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Et donc, mes chers frères, pour conclure, à une époque où la Ummah connaît des jours très difficiles, avec une montée d'islamophobie comme on n'en a jamais vu, avec la Ummah, le monde musulman qui se déchire dans différentes régions du monde dans les luttes internes, à notre niveau, on ne peut pas changer le monde. À notre niveau, mis à part les doigts, on ne peut pas changer tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas diminuer le nombre de personnes qui meurent, le nombre de croyants dont le sang est versé injustement matin et soir. Et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Mais à travers ce genre de amal, ce genre d'action, un nikah, on peut dire, c'est une lumière dans un monde obscur. C'est une lumière parce que ce sont des jeunes, comme on a dit, qui vont s'unir par amour pour Allah et qui font le nier de devenir des pieux adorateurs d'Allah et d'engendrer un jour des enfants qui seront des porte-drapeaux également de l'étendard de l'islam, qui auront les valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire que c'est un feu d'artifice dans un monde vraiment difficile, compliqué. On ne changera pas le monde, mais c'est par le akhlaq, le comportement de chaque individu qu'on pourra, Inch'Allah, apporter un peu plus de lumière dans ce monde extrêmement difficile. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse ce mariage, mette beaucoup de baraka dans cette union et dans les autres couples qui se sont formés. Mais avant qu'Allah nous protège des problèmes dans les couples, du divorce et des fractures qui sont très souvent à l'origine des wasawis, des insufflations de shaitan et des mauvaises pensées. Qu'Allah Azza wa Jal accorde à ce couple des enfants pieux, beaucoup d'enfants. D'un accord, beaucoup, Inch'Allah, beaucoup d'enfants qui seront la fraîcheur de leurs yeux, Inch'Allah. Et qu'Allah mette muhabba entre les deux personnes, mais également entre les deux familles. Qu'Allah récompense les parents du garçon, les parents de la fille. Parce que si Aslam est là et son épouse est en bas, c'est grâce à Allah, encore une fois on le répétera pour la troisième fois, Mais c'est grâce à Allah avant tout, et c'est grâce à ce tarbiya, l'éducation que les parents des deux côtés ont donné. Monsieur Kassim, c'est votre deuxième fille qui se marie. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Un homme qui a deux filles, qui leur donne une bonne éducation, jusqu'à ce que, et en commentaire les ulama disent une bonne éducation, c'est jusqu'à ce qu'elle se marie avec des gens pieux. Il se rapproche de moi comme deux doigts le jour de Qiyam. Bushra, ce sont là des bonnes nouvelles. Et donc Allah Azza wa Jalla récompense ses parents pour leurs efforts, le tarbiya qu'ils ont donné. Et qu'Allah vous réunisse un jour de le Jannah, par rapport au verset qu'on a dit, parce que c'est là l'objectif final d'être avec nos proches. Et on aura une pensée également à cela pour ta grand-mère et ton grand-père, ton nana et ton nani qui nous ont quittés presque en même temps, par la décision, le taqdir d'Allah il y a quelque temps. Ça aurait été la fraîcheur de leurs yeux de voir leurs petits-enfants se marier, mais c'est là le taqdir, la décision d'Allah Azza wa Jalla, فوق سبع سماوات, au-dessus de sept cieux. Allah établi sur le trône a décidé que les choses se passent de la sorte. Et là, il y a une hikmah, une sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Et incha'Allah, l'objectif c'est d'être avec eux dans le Jannah. Et avec le grand-père et la grand-mère, et c'est valable pour tout le monde, et pas des personnes qui ont 75, 76 ans, dans l'état où ils ont quitté. Là, wallah, quel est l'âge, aslam, des gens du paradis? 33 ans. Le summum de la beauté, le summum de la beauté physique, de la fraîcheur. Imaginez le bonheur que de retrouver toutes ces personnes dans le Jannah sous la protection d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde tous ces bienfaits. Et comme aujourd'hui on est réunis, on parle d'Allah Azza wa Jal. Vous savez que le jour de Qiyam, dans le Jannah, les gens du paradis se rendront visite. Ils parleront des jours passés de ce dunya, des difficultés, et chacun aura conscience qu'est-ce quand, à quel moment Allah m'a accordé le paradis, pour quelles actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette un jour d'être ensemble dans le Jannah et de continuer cette conversation. Wa tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.